là, ce que vous montrez bien, c'est le fait que le climat est un objet politique.
Complètement. Et au service que le discours du GIEC, pour moi, dit le vrai, avec les chiffres, le beau, avec des images, et presque le juste, avec... Alors, c'est pas lui qui le dit, mais c'est les interprétations qu'on se fait.
D'accord. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Il y a le fait que de regretter, finalement, cette entrée en politique d'un objet scientifique, ou il y a le fait de regretter que cet objet politique ne mette pas en place les conditions du débat politique sur cet objet. Donc, par exemple, par le monopole du GIEC, dans l'énonciation de ce qu'est le problème, de ce que serait le problème. Et il me semble que ce n'est pas tout à fait la même chose.
Non, ce n'est pas du tout la même chose.
Et là, il me semble que dans votre exposé, il y a parfois une confusion entre ces deux plans, c'est-à-dire que on sent à la fois finalement le souhait de retenir dans le scientifique cet objet, en disant il faut revenir aux sources de la donnée, etc., etc., pour pouvoir la questionner de manière scientifique. Et de l'autre, il y a la critique de cette entrée désordonnée de cette question du climat sans que véritablement ce soit devenu un objet en tant que tel qui puisse être discutable. Il me semble que c'est important, disons, d'arriver à séparer ce qui relève du scientifique d'un côté et ce qui relève, donc en termes de critique, hein, je parle de critique de scientifique d'un objet, et ce qui relève des conditions, disons, de la discussion politique d'un objet, quel qu'il soit. Et il me semble que dans les glissements que vous faites assez régulièrement, disons, de l'un à l'autre, disons qu'on a parfois c'est en défaveur de ce que vous portez, c'est-à-dire que parfois vous utilisez l'un pour justifier l'autre, et il me semble que c'est important de maintenir cette séparation-là. Et de l'autre, ça ne donne pas suffisamment peut-être d'outils pour voir comment construire le débat politique autour de ces objets. Le travail que fait Bruno Latour, par exemple, qui se pose des questions justement sur la construction de l'approche politique, disons, d'objets scientifiques.
Je voudrais d'abord remercier pour cet exposé et puis abonder dans le sens de ce qui est dit. Parce que, en fait, il y a une chose qui... ce que vous faites, peut-être que ce que tu fais, c'est une sorte d'analyse de discours presque, mais où parfois j'ai l'impression qu'il n'y a pas des outils pour une analyse de discours en fait, vraiment en sciences sociales là je dis. Ça veut dire qui parle à chaque moment. Je crois que dans l'exposé il y a eu une cinquantaine de fois on nous dit, on fait, je sais pas quoi. Or c'est important de dire à chaque fois, est-ce que c'est par exemple les 2 degrés, on peut les critiquer parce que c'est trop catastrophique, aucun scientifique ne le dit. Très bien. Après, il y a les indices des pays qui sont un poker trompeur. Il y a des images qui proviennent de littérature scientifique, des images qui proviennent de Al Gore ou de films, etc. On ne peut pas les juger, on ne peut pas les classifier sous le même, dans le même régime de critique ou dans la même fonction qui tient dans un discours, il me semble, en tout cas. Et une des questions qui s'attache à ça, c'est la question que j'aimerais vous poser, très clairement. C'est qui le « on » en fait, ce « on » qui revient tout le temps, c'est qui essaye de nous tromper, qui nous met tous ces graphiques, qui nous met tous ces trucs pour nous embourber, c'est qui, pourquoi, parce qu'on sent bien qu'il y a derrière une sorte de volonté, de quelque chose qui se meut, qui fait, voilà. Et deuxième question, et c'est là où je vous rejoins aussi, c'est comment mettre au fait le qu'est-ce qui est pour vous le travail du GIEC dans le sens où c'est vraiment quelque chose d'original qui essaye de faire pas de la science justement, mais une sorte d'expertise, donc d'où par exemple l'abondance de graphiques puisque c'est une façon plus ou moins bonne, critiquable, pas critiquable, je sais pas, mais en tout cas de mettre en, en visibilité pour des décideurs, pour le débat public, etc. Il y a d'ailleurs il y a toute une réflexion au GIEC en ce moment sur la façon d'ouvrir au fait le GIEC et de l'expertise du GIEC au débat public. Ça veut dire de fournir des éléments pour le débat public, puisqu'ils se rendent compte que ou ils se disent qu'ils sont pas assez, qu'ils sont trop en direction des décideurs et pas assez du public. Et donc la question, par exemple, au niveau des images, au niveau aussi des probabilités, bien évidemment qu'un mathématicien rigole de la façon comment sont conceptualisées les probabilités dans le GIEC. Or, c'est une façon plus ou moins adroite, plus ou moins maladroite de dire là on est plus ou moins sûr, là on n'est pas du tout. Comment on peut le faire autrement? Je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble que ça pose des questions qui vont au-delà de la simple critique frontale, parce que il me semble qu'il y a des efforts qui sont faits justement pour faire ce bridge en fait, entre le scientifique, le public. Et peut-être que c'est mal, mais en tout cas, ça mérite d'être discuté.
Oui. Oui, en fait, en quelques mots, moi j'ai l'impression qu'il y a. Moi je perçois deux problèmes très différents. Le premier, c'est comment parler de résultats ou de problématiques scientifiques à, je sais pas comment l'appeler, l'homme de la rue, l'homme de la société, là, hein, la méchue, la personne moyenne. J'ai l'impression que. Parce qu'en fait, ça c'est ce que, quand j'entends ça, je me dis à la fin, mais oui, mais voilà, notre problème, c'est comment faut-il parler à ces gens-là finalement ? À partir de vraies données scientifiques. Et le deuxième, c'est que si les données scientifiques, ce que j'aurais tendance à croire moi aussi, parce que je connais, je suis un scientifique plutôt des sciences de la vie, mais, si les données sont si distordues et sont si focalisées, est-ce que c'est pas de nouveau sur cette vision d'une nature idéale qu'on est en train de perdre? Alors il faudrait savoir pourquoi on estime qu'aujourd'hui on est en train de perdre la nature idéale, et moi j'aimerais bien savoir. Mais moi, mon sentiment, je vous pose la question, c'est qu'on a une crise aujourd'hui, c'est-à-dire une crise où la majorité de la population devient créationniste sans le savoir. C'est-à-dire qu'elle rêve du paradis perdu, et on sait, on est parti, on a quitté le paradis perdu, et c'est notre faute. Et j'aimerais savoir d'où ça sort. Moi, ce serait très intéressant. J'ai quelques hypothèses, mais j'aurais bien aimé entendre des gens en avoir, parce que...
Moi, j'avais une petite remarque par rapport... Ah, excusez-moi.
Non, c'était qu'il y avait un après-midi.
C'était par rapport au thème de la journée, le développement durable, normes ou projet politique, mais en fait, la question que je me pose, c'est que finalement, le développement durable en tant que notion, ou le climat en tant que notion également, est-ce qu'elles ne sont pas l'illustration finalement de cette véritable crise politique en fait? Et ça rejoint aussi l'observation que posait monsieur tout de suite, c'est que finalement, on se rend bien compte que sur toutes ces questions, on a une impossibilité à statuer ou ne serait-ce qu'à exprimer les véritables dangers. Est-ce que finalement l'enjeu il ne serait pas finalement de se poser la question de comment ramener sur l'espace public les moyens de prendre du recul, de la distance par rapport à ces énoncés?
Exactement.
Merci. Et
dernière
question.
C'est une question un peu personnelle, mais vous avez commencé l'introduction où je crois peut-être que je réintroduis un élément de la conversation de midi, mais vous avez, il me semble, recommencé votre communication en disant c'est pas vrai, il faut que ces données et que tous ces éléments sur le changement climatique soient inaccessibles, on peut se faire une idée par soi-même et on doit se faire une idée par soi-même. Je trouve que c'est un peu, et vous avez invité à aller regarder justement dans les documents. Oui, mais alors, après ce que vous avez montré, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il vous avait fallu une semaine de travail de climatologue, géographe pointu pour arriver à déconstruire une page du rapport du GIEC. Donc je me dis que, bon, moi, j'aurais pas peut-être cette patience et j'aurais pas cette compétence pour faire ce même travail. Et donc, je vais être amené à devoir, en fait, m'aligner derrière, pour reprendre encore une fois des termes, en fait, de Lippmann et repris par Bruno Latour. Finalement, dans ce genre de circonstances, on doit s'aligner, en fait. Soit je m'aligne derrière vous et un certain nombre de docteurs, enfin, voilà, soit je m'aligne derrière le GIEC. je me dis, et alors je sens bien votre discours est très convaincant, enfin, il y a beaucoup de choses, et à chaque fois que j'ai entendu des topos un peu, alors je ne veux pas vous classer un climato-sceptique, hein, mais disons qu'ils mettent en cause un peu les rapports du GIEC ou d'autres choses comme ça, c'est vrai que c'est très déstabilisant. Et après, je me dis, mais quand même, il y a le GIEC. Et c'est quand même, voilà, c'est une espèce d'énorme, peut-être d'énorme machinerie, etc. Et tout ce que vous dites, je peux les interpréter un peu comme des péchés véniels, voilà. Mais j'ai pas envie de dire, bah, le GIEC, je passe par pertes et profits, et donc finalement, je considère que tout ça, c'est une fable. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me convaincre que finalement, il y a quelque chose vraiment de vicié, parce que je pense que c'est un peu ce que vous avez sous-entendu, dans le GIEC et dans ce qu'il produit.
Sur le on, là, je suis très surprise parce que certes, il ne faut pas mélanger je le sais bien, les images des conférences d'Al Gore, mais Al Gore a quand même eu le prix Nobel de la paix pour ce qu'il avait fait pour le climat. Donc, à part ces images, tout le reste, c'est pris dans les textes officiels, je vous l'ai dit. Et il me semble que j'ai cité, alors après, peut-être que c'était une facilité de langage d'utiliser « on », mais en fait, j'ai bien dit le rapport Jouzel, etc. Et donc, je vous invite à aller les regarder. Il y a un autre moment où j'ai quitté l'officiel, c'était en reprenant ce que j'avais fait à la BNF, on m'avait demandé d'analyser, et vous pouvez aller le regarder sur le site de la BNF, les 32 livres qui sont portés sur le climat.
C'est pas pour reformuler la question, c'est pas le fait que tu n'aies pas cité tes sources, c'est le fait que c'est l'identification de l'acteur politique, des acteurs politiques qui sont derrière. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un parti, entre guillemets, finalement, là où on a une hypothèse, ce serait un parti créationniste de la nature. Est-ce que tu peux aller plus loin dans ton interprétation des forces politiques, hein, puisque justement le fil conducteur de cette journée, c'est la nature comme enjeu politique. Donc si on prend le climat, quelle est. Moi, c'est une question qui n'est pas claire pour moi non plus, hein, parce que je ne crois pas aux théories du complot, non, donc je ne pense pas qu'il y a un type qui tire les fils. Voilà, hein, et toi non plus. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous aider, avec ton expérience, à dire comment tu vois la configuration des forces? Il y en a peut-être plusieurs, il y a peut-être des alliances, tu vois. Il me semble que c'est un peu ça la question de Stéphane. Hein,
Oui, moi c'était dans des phrases comme on ne veut pas que les gens regardent. On ne veut pas nous.
Ça, c'était mes conclusions personnelles.
Oui,
Moi, je me suis appelé on. J'ai pas analysé des choses qui étaient faites par du on. J'ai analysé des choses qui étaient faites. Moi, je suis le spectateur. J'essaye de comprendre avec la meilleure bonne foi du monde, malgré les apparences. Je pense que je fais des exercices qui, effectivement, mettent une semaine. Et quand je dis une semaine, c'est beaucoup plus qu'une semaine. On était deux sur la carte sur le blé, parce qu'il a fallu chercher beaucoup de choses. Les cartes du rapport Jouzel, vous pouvez aller voir aussi sur Internet, il y a tout un article qui les décortique très longuement. Et j'ai dit d'ailleurs à Jean, que je connais bien, ces cartes, c'est du délire, et je lui ai expliqué pourquoi, et il m'a dit t'as raison, il faudrait pas faire comme ça, etc. Bon, je pense que c'est peut-être parce que peut-être parce que j'ai une formation scientifique, et encore pas vraiment, à part des études de géographie, je suis pas du tout formée au sens social, à la philosophie ou à tout ce que vous voulez, ou à la géopolitique. Mais je me dis que dans une société où on remet en cause tous azimuts, la vaccination, etc., enfin la science en général, c'est urgent de présenter de la science qui soit acceptable par tout le monde, et que ce que fait le GIEC, d'abord peut-être parce que le rythme des rapports est trop soutenu et qu'il n'y a pas d'innovation réelle entre chaque rapport, 5 ans c'est trop juste à mon avis pour pouvoir arriver à faire des choses neuves et présenter vraiment des choses neuves. Bon, maintenant, je ne peux pas répondre à la question parce que j'ai toujours refusé de faire partie, bien qu'on me l'ait demandé à chaque fois, de faire partie des experts qui relisent et qui font le tri. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi cette carte sur le blé que j'ai mise, que je vous ai montré et que je vous ai décortiqué comme ayant vraiment aucun sens, est sur une page sur l'adaptation de l'Europe au changement climatique du point de vue agriculture, faune, flore. Je ne comprends pas, c'est le seul document qui est présenté pour traiter de ce problème. Je ne peux pas répondre à la question. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça, mais je constate que des choses comme ça, c'est pas admissible et c'est pas crédible. Ce que je vous ai montré sur le rapport Jouzel qui dit qu'il y a eu entre 0 et 2 jours dans la moitié de la France deux vagues de chaleur entre 1976 et 2003, je vous assure que si vous parlez avec des gens qui font de l'adaptation, eh bien, ils vous diront, mais d'où ils sortent ces chiffres? Voilà. Donc, il y a quelque chose qui... Bon, après, toi, tu me demandes... Je sais bien que ce qu'on me reproche, c'est-à-dire de faire de la déconstruction, mais je fais simplement une analyse de... Le journaliste écrit ça, moi, qu'est-ce que je comprends derrière ce qui est dit? Donc, on peut aussi ne pas l'interpréter de la même manière, mais je n'ai pas la prétention de construire quelque chose. Ce que je peux dire, c'est qu'on questionne le problème climat. Le problème climat, il est mal posé. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on le pose vraiment scientifiquement. Et moi, je suis persuadée que le positionner scientifiquement d'une façon très juste serait probablement plus efficace pour convaincre, donc faire passer un message. Je ne suis pas sûre que le fait que tout soit mélangé soit très efficace au niveau de la transmission. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est qu'il me semble que pour trouver des remèdes à quelque chose, si l'unanimité se fait sur le fait que c'est un vrai problème, alors il me semble que si le problème est vraiment correctement posé, on aura plus de chances de trouver des solutions. Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai écrit, ça fait à peu près 15 ans que j'ai dit, et je me souviens à Copenhague, après Copenhague, avant Copenhague, après Copenhague, j'avais déjà écrit que la Charte des Nations Unies comportait la notion de non-ingérence dans ce que faisait chacun des pays. C'était ça les Nations Unies, ça s'appelle Nations Unies à cause de ça. Donc ça voulait dire que vouloir quelque chose d'universel avec un gendarme qui dirait « Ah, l'Albanie, c'est pas bien ce que vous faites », c'était contraire à ce que... Donc on avait déjà, depuis le début, par rapport à ça, les Nations Unies avaient montré qu'elles ne pouvaient pas être opérantes si on voulait une solution universelle.
Il y a des domaines où ça fonctionne.
Les domaines où ça fonctionne.
Le principe de souveraineté, justement, quand il y a des contrôleurs pour des armes atomiques qui vont en Iran, c'est aussi sous l'égide des Nations Unies que ça se passe.
Est-ce que le climat, c'est une illustration de la crise politique? C'est ça. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui concerne le climat, c'est porté par l'Europe. Et ce que je vois de l'Europe, c'est un pays qui regarde dans le rétroviseur. Donc, effectivement, on était en panne de projets collectifs et le climat est devenu quelque chose qui peut nous réunir autour de quelque chose qui va nous inscrire en avenir. Quitte à ce que, effectivement, on aille vers du créationnisme, sans le savoir.
Que je trouve que ce serait intéressant d'avoir des études, je ne sais pas si c'est d'anthropologie, d'ethnologie, etc. Mais comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a une angoisse devant. On est en train de quitter un monde qui était bien et beau, et on est en train d'entrer dans un autre. Alors moi j'ai entendu, ça je sais sur laquelle je suis d'accord, parce que depuis Laurent Courant et autres, on le dit, on est en train de quitter le néolithique, bon d'accord, c'est le anthropocène, d'accord. Mais est-ce que. Parce que c'est pas ça le problème, tout simplement. C'est-à-dire que comme après le néolithique, ensuite, il y a eu les grandes religions de la chute, etc., etc., bon, pourquoi on ne serait pas actuellement dans une phase où on est en pleine angoisse d'une chute globale, parce qu'on est en train de changer de monde, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des... Qui ont... Enfin, je cherche, hein, moi, je suis à la recherche d'auteurs qui auraient réfléchi sur ce point clé, mais je ne trouve pas. Vraiment.
Oui, il y a des gens qui ont écrit sur les éco-fictions, etc., mais c'est plutôt pour montrer que ça a toujours existé. Et que ça fait partie, se faire peur, ça fait peut-être partie du fait de ressentir qu'on est vivant. Et moi, j'ai monté il y a 20 ans un réseau qui s'appelle perceptionclimat.net. Vous pouvez aller sur Internet, vous verrez ce réseau international. Il y a beaucoup de sociologues, beaucoup d'anthropologues, beaucoup d'ethnologues. Et eux, effectivement, ils montrent plutôt que c'est quelque chose qui est une permanence dans les sociétés, la peur.
Oui, mais là c'est on a eu un bouquin qui est sorti du 19e siècle, La fin du monde par la science. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un bouquin tout à fait amusant, je l'ai lu, c'est très drôle. Et Et à l'époque, ce livre a eu un certain succès, mais ça n'a eu aucun effet sur les choix collectifs. Aucun. Et pourtant, il y avait des trucs qui étaient presque idiots. Mais ça n'a eu aucun effet. Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un dise à la télé n'importe quoi, une ânerie totale, il y a même eu des gens qui ont essayé pour voir. Ils ont eu vraiment une énormité, une catastrophe à tel endroit, tout le monde suit dessus. Parce que moi, je connais des gens qui sont en train de se préparer dans leur maison à la campagne et tout, parce qu'ils savent que la grande catastrophe, de toute façon, ils vont la vivre. Ils ont 35-40 ans, ils disent, ça c'est sûr, on va l'être. Alors, c'est quand même...
Oui, on te laisse terminer, parce que tu n'as pas répondu à toutes les questions, si.
Je ne sais pas...
Non. Ah non, mais si tu avais répondu très bien... Ah,
sur le comment passer à l'homme de la rue d'une certaine façon,
ouais, c'est
je
ça, mais...
dit, la vision de la nature, moi je ne suis pas, peut-être parce que j'ai une formation plus scientifique, c'est des questions qui, je pense que je ne peux pas répondre, à... Mais...
Ce que je voulais dire, c'est peut-être que la question que j'ai posée est peut-être très mal posée, en fait.
Oui, réfléchissant, j'inverserais plutôt les choses en fait, en disant que finalement, est-ce que c'est pas la crise politique qui a une incidence sur la perception des enjeux climatiques et du développement durable en fait, parce que ça peut se prendre dans un sens et dans un autre. En fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est peut-être d'abord aux politiques de réinterroger ces questions pour qu'elles soient amenées différemment sur le plan scientifique. Et peut-être perçu différemment par les uns et les autres.
Et alors pour moi, pour préciser la question que je posais tout à l'heure, c'est que moi, le sentiment que j'ai eu, c'est que vous travaillez d'une certaine manière à la construction d'un objet scientifique qui serait pur, d'une certaine manière, qui serait bien traité, bien, etc. etc. Alors que d'un autre côté, vous nous dites, allez-y voir. Et il me semble qu'il y a une contradiction entre la construction d'une science qui serait élaborée d'abord par, pour, etc., les scientifiques, d'un côté, et la population de l'autre, et ce désir, finalement, que la recherche scientifique soit au service des populations. Où... Donc il y a toute la question de la construction de la science. Est-ce qu'elle doit se faire par les scientifiques uniquement, ou est-ce que cette science doit se faire, se co-construire, finalement, entre des scientifiques, des populations, des politiques, etc. Et donc qu'elles deviennent d'une certaine manière un objet politique avec tous les risques que ça comporte.
Oui, je comprends vos questions. Pour moi, il me semble que ce qui s'est passé, mon vécu personnel de climatologue, et Jacques l'a connu, c'est-à-dire dans les années 70, quelqu'un qui disait « je suis climatologue » et quelqu'un à qui on disait « ah ben, alors, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que le météorologue, il prévoit ce qui va se passer demain, après-demain. Toi, tu regardes le passé, ben, on sait déjà ce qui s'est passé, donc à quoi ça sert. Donc,
c'est pas moi qui lui disais ça.
Non, mais il le pensait très fort. Donc, c'est pour vous dire le renversement qu'il peut y avoir eu dans la société à partir des années 80, de quelque chose qui semblait n'avoir aucun intérêt, et à Météo France, pour prendre l'exemple de Météo France, le service climatologie, c'était deux personnes qui étaient en pré-retraite. Voilà. Et c'est tout. Or, aujourd'hui, tous les ingénieurs de Polytechnique qui sont à Météo France, et il y en a beaucoup, ils vont aller travailler à Toulouse dans le service de modélisation du climat. Donc on voit bien que l'objet climat, qui était quelque chose d'inintéressant pour la plupart des disciplines, et en physique ça n'existait pas. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas, aucun physicien disait qu'il était climatologue, il disait qu'il était physicien de l'atmosphère ou quelque chose comme ça. Bon. Et il n'y avait pas d'enseignement de climatologie ou... Donc, il y a bien eu un renversement, et de la même manière que c'est très louable ce que fait le GIEC, parce que dans aucun domaine scientifique, il n'y a des gens pour se rassembler et pour essayer de faire un état de l'art aussi périodique, mais on voit bien que donc c'est parce qu'il y a un enjeu derrière que on passe ce temps à fabriquer des rapports du GIEC, à faire en sorte que de l'argent public aille vers la recherche sur le climat. Il y en a abondamment, hein. Moi j'en ai profité tout au long de ma carrière, donc il y a bien un enjeu politique derrière ça. Maintenant, Moi, je considère pas qu'il y a une dissociation de la science et du politique, de toute façon, parce que un objet, l'objet de la climatologie des années 70, qui n'avait pas un rond, et ben c'était un objet pour lequel le politique ne s'intéressait pas à cet objet-là. Donc là non plus, il n'y avait pas. Pour moi, il y avait toujours un regard porté par le. Pourquoi il y a eu ce basculement ?
C'est ça qui est intéressant, il me semble. Bon, la description du comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tout à coup, le climat,
Je ne sais pas. On a dit, je vous ai. Moi, je peux. Il y a eu peut-être quelques. Enfin, les problèmes, par exemple, sur les pluies acides. Moi, je ne considère pas que les pluies acides ou l'ozone, ce soit exactement la même chose. Les pluies acides, on a fait la démonstration qu'on avait complètement déraillé. Et moi, j'ai envoyé, il faut être clair, dans le Jura et dans les Vosges, des palanquées d'étudiants faire des mémoires de maîtrise à l'époque pour mesurer des dépôts qui entraîneraient des déperdissements d'arbres et de choses comme ça, pour qu'on finisse par comprendre que c'était des problèmes de sol, que c'était tout à fait autre chose que de la pollution. Parce qu'on constatait que dans les vallées où il y avait, dans les Vosges, ça existait, Chemin, Goutte, tout ce que vous voulez, vous avez des vallées qui sont très industrielles, et où les arbres étaient en très bonne santé. Et au contraire, dans les endroits où il n'y avait strictement aucune pollution atmosphérique, où au contraire, ils étaient dépérissants. Donc que le problème ne se posait pas comme ça, et qu'il suffisait d'apporter, on l'a su après, d'apporter des ions calcium au sol pour que les arbres. Donc il n'y a pas eu les grands dépérissements qui étaient annoncés, etc. Bon. Et donc c'est à peu près à ce moment-là qu'effectivement, quelques. Alors c'était plutôt orienté flore, on pourrait dire, pas spécialement climat, mais c'est le climat sur ses effets sur les espèces végétales, que c'est devenu un objet politique. Mais cet objet politique, on voit bien qu'il a commencé à apparaître quand le discours des Verts a commencé. Il est né en Allemagne, le problème des pluies acides. À deux photos qui étaient truquées, d'ailleurs. Comment ? Ben, je pense qu'il y a un moment où les gens vont en avoir marre, oui. Et je pense même, si vous regardez aujourd'hui les financements en matière de changement climatique, il y en a pratiquement plus sur le climat, il y en a beaucoup moins. Et même pour la modélisation, il y a moins d'argent qu'il y avait. Et un laboratoire comme Simon Laplace, Hervé Le Treut, il avait 20 candidats pour une place tous les ans pour un master. Maintenant, il a des chaises vides avec des ordinateurs vacants. Donc c'est en train de changer, oui, parce que c'est aussi beaucoup d'argent qui a été mis pour quelque chose qui n'avance pas tant que ça. Pas seulement parce que si effectivement c'est un vrai problème, on n'arrive pas à trouver, mais c'est pas forcément aux gens qui font de la climatologie de dire quel est le moyen de s'en sortir. Mais la démonstration est faite que on a augmenté les gaz à effet de serre de 45%, donc si c'est si grave que ça, il faudrait urgemment. Mais moi, je ne dis pas non plus que c'est pas grave. Je dis que, depuis longtemps, qu'au lieu de lutter contre les gaz à effet de serre, on ferait mieux de regarder l'adaptation. Parce que là-dessus, probablement que ceux qui ne seront pas adaptables, et pas d'une façon sectorielle, c'est-à-dire pas de la manière dont on le fait, c'est-à-dire pas du tout en disant. La santé, en saucissonnant comme ça, mais en regardant territorialement. Je pense qu'il y a des gens qui sont vulnérables dans l'agriculture, c'est pas forcément les bosserons de la FNSEA. Je pense qu'il y a des gens qui sont vulnérables. Mais oui, ben c'est exactement ça. Donc, et que les vulnérables ne sont pas que dans les îles tropicales, et qu'il y a des gens qui sont vulnérables à avenue Jean Jaurès.
Alors, je crois qu'il faut conclure. Je me permets une phrase. Il me semble que, à l'échelle, disons, à la fois des chercheurs en sciences sociales et de l'action publique, je pense qu'on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, sur un sujet comme ça, le travail de la science est tellement important que l'idéal, c'est quand même de la laisser travailler. Et je pense que, sur un temps relativement court, on va avoir des réponses, en fait. Comme on l'a vu d'ailleurs sur les pluies acides, qui ne sera peut-être pas une inversion, ce sera peut-être une confirmation, oui. Hein, mais disons que moi je suis assez optimiste sur le fait que je dirais presque en interdisant aux chercheurs de faire de la politique et en leur disant « bosse », là, les citoyens vont avoir les réponses. En revanche, je pense que au niveau de la politique, hein, justement, c'était ça, hein, je pense, qui nous réunissait, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un enjeu politique important. Et par exemple, quand je vois des expressions du genre « dérèglement climatique », là, je pense que quels que soient les résultats scientifiques, il y a un problème. Parce que dérèglement climatique, c'est une expression normative, anthropomorphique, qui ne devrait pas exister, quelle que soit la dynamique du climat. Le climat n'est pas réglé par une loi. Le climat, non seulement il a une variabilité, des variabilités, mais il a aussi des changements qui ne sont pas anthropiques. Ça, personne ne peut le contester. Des changements plus importants que ceux qui sont en train de se produire maintenant ont eu lieu précédemment. Là-dessus, il y a un total consensus. Donc l'idée de dérèglement, elle est effectivement un coin de métaphysique planté dans le débat public. Donc moi, je pense que nous, avec nos moyens, je dirais, alors là, en tant que chercheur, je ne sais plus en tant que citoyen, mais en tant que chercheur, nous devons, je dirais, notre responsabilité éthique, c'est de donner une certaine hygiène au débat public avec la modestie que à la fois les chercheurs en sciences sociales et les citoyens doivent avoir, mais sans laisser des remontées acides, si je puis dire, se produire de façon incontrôlée, parce que là il y a vraiment un risque à ce moment-là pour la qualité du débat, hein. Et donc l'acceptabilité, il faut se terminer là-dessus, donc c'est-à-dire la possibilité d'un consensus repose justement sur le fait que, indépendamment des inputs que les spécialistes vont mettre dans ce débat, que les cadres du débat soient propres. Sinon, en fait, les consensus seront illusoires, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des accords superficiels, mais en fait, comme on est dans des sociétés extrêmement réflexives, on ne va pas faire avaler aux citoyens des choses qui sont totalement contraires, par exemple, avec les fondements de leur société depuis deux siècles. Ça ne marchera pas. Voilà ma conclusion provisoire.
Merci.
Jérôme, peut-être un mot de conclusion aussi.
Non, j'allais entamer une polémique, donc c'est peut-être pas le moment.
Tu peux.
Non, je pense que aussi la question de l'hygiène et d'un débat propre est aussi quelque chose de très normatif, mais bon, ça sera...
Oui, enfin, j'en ai pas voilà. Défini très bien les règles.
Bien, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette journée et ce débat. Merci beaucoup. Et puis donc, la prochaine séance, donc, c'est le 19 avril. Donc, une séance pilotée par Bruno Villalba.